cette réflexion sur le point de vue du travail. La dernière fois, je vous ai montré comment le travail saisit l'homme dans toute sa complexité. C'est l'activité la plus complexe et, sous ce point de vue-là, la plus humaine, selon l'ordre génétique. Je prends tout. Le corps, on travaille à cause du corps, hein. C'est bien évident. Les anges ne travaillent pas. Je dis ça en nota bene, parce que c'est philosophiquement, on ne peut pas beaucoup parler des anges. Les éons, néoplatoniciens, les substances séparées, ne travaillent pas. Bien heureux, toujours au chômage. Parce qu'ils sont de purs contemplatifs. Étant de purs contemplatifs, ils n'ont pas besoin de travailler. C'est pour ça que de temps en temps, les purs contemplatifs de la Terre croient qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Et ils font erreur. Et ça fait partie de ces erreurs qui peuvent arriver. La condition terrestre implique le travail. Et là, vous voyez, le point de vue psychologique a tout à fait raison quand on dit que quelqu'un qui travaille maintient son équilibre psychologique. Et c'est surtout vrai pour le travail artisanal. Parce que le travail intellectuel, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des gens qui croient qu'ils travaillent intellectuellement parce qu'ils rêvent. Ah oui, j'aime beaucoup de travailler intellectuellement. Je médite, je rêve. On ne travaille pas à ce moment-là, on rêve. Le rêve n'est pas le travail. Le travail intellectuel consiste à piocher. On pioche différemment quand on fait la cuisine, quand on plante des pommes de terre, ou des navets, et quand on travaille intellectuellement. On pioche autrement. Quand on est secrétaire, ayant toujours les yeux tournés vers son maître. C'est un autre. Ou quand on surveille, être surveillant, c'est un travail. C'est très particulier. Conduire le TGV, c'est un travail. On est attentif. On est attentif à tout. Et le plus loin possible. Regarde l'aigle. Le travail a des formes très très multiples. C'est ça qui est important de voir. C'est des modalités extrêmement particulières. Mais on voit bien que le travail met en œuvre, en acte, tout l'homme. Et c'est pour ça que ça équilibre. C'est pour ça que le travail maintient un réalisme. Évidemment, surtout le travail manuel. Ça rééquilibre. On ne peut rééduquer quelqu'un que par le travail. On le sait bien. Mais les drogués ne peuvent être rééduqués que par le travail. La destruction de l'éducation. Et les fils à papa ne peuvent être éduqués que par le travail. Sans d'autres drogués. Ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Tout est arrivé au bon moment. Ils ne savent pas ce que c'est que le travail. Alors quand on ne sait pas ce que c'est que le travail, qu'on arrive à 23 ans, c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Parce qu'il faut reprendre tout. Il y a un travail monastique. Pas le même que celui des fonctionnaires. Nous sommes tous des hauts fonctionnaires de Dieu. Le travail monastique, on travaille pour Dieu, pour la gloire du Père. Donc on considère que manger et dormir, c'est encore du travail, puisque c'est glorifier le Père. C'est un travail particulier. je montrais que l'outil a transformé le travail. Ça, c'est sûr. Et d'une certaine manière, le progrès si intense dans l'outil, la machine à vapeur, on l'a bien dépassé, et l'outil, l'ordinateur. Une petite session sur l'ordinateur à Rimont, où il y avait les partisans de l'ordinateur et ceux qui mettaient des freins à l'ordinateur. L'outil peut détraquer tout dans le travail. L'outil a pris une importance énorme. Mais je dis quand même, philosophie du travail, non pas philosophie de l'outil. Mais dans la philosophie du travail, je crois qu'il y aurait un secteur extrêmement important à voir aujourd'hui, l'outil. Vous voyez, c'est curieux, hein? On vit de ces choses tout à fait particulières. Il y a l'outil, il y a la parole, il y a la monnaie. Je me demande, ce n'est pas les trois idoles du monde moderne où ce qui est moyen devient fin. La parole, moyen de communication. Je vous ai dit l'autre jour, il faut, c'est très bien la communication pour la communication, mais savoir ce qu'on communique. Si on communique quelque chose de valable, si vous parlez pour parler, si vous bavardez pour bavarder, comme on dit au Canada, si vous jasez pour jaser, à ce moment-là, s'il n'y a rien, c'est le moulin à café qu'on tourne indéfiniment, le petit gosse. Ça me dit, mais il n'y a plus rien. Ah, ça fait rien. C'est amusant de tourner. Là, il n'y a plus rien à communiquer. La parole, on fait la philosophie de la parole. La monnaie, qui est un moyen et qui devient une fin, point de vue économique, et l'outil. Les trois grands moyens qui ont pris une valeur extraordinaire, qui deviennent des idoles. Très bien considérer que l'outil est un idole quand vous travaillez que pour l'outil. Quand vous avez une philosophie de la parole et quand toute l'économie est commandée par la monnaie. C'est très curieux ça, parce que ça marque notre civilisation, ça, vous voyez. C'est le repliement sur le moyen. Et c'est vrai que l'outil, depuis le silex taillé, depuis la roue, premier outil, jusqu'à l'ordinateur, ça fait quand même, hein, le premier outil, c'est le prolongement de la main, et aujourd'hui on en arrive au prolongement du raisonnement, prolongement de la logique, l'ordinateur. C'est la logique qui prend une rapidité extraordinaire dans l'ordinateur. Et le jugement d'existence n'est pas dans l'ordinateur. C'est pour ça qu'il est grand temps de voir que la philosophie, c'est le jugement d'existence, part de le jugement d'existence. Toutes les relations peuvent être prises dedans. Toutes les relations. Mais c'est vrai que ça change. Ça conditionne le travail. Alors, est-ce que ça le change dans sa nature, dans sa structure, dans sa finalité? Non. Puisque l'outil est le fruit du travail. Alors, ce n'est pas le fruit du travail qui commande le travail. Dialectiquement, c'est le maître et l'esclave. Oui, bien. dialectiquement, on pourrait dire que l'outil détermine le travail. Philosophiquement, point de vue philosophie réaliste, l'outil ne détermine pas le travail. Le travail est déterminé par quoi? Par quelque chose de beaucoup plus profond, c'est l'idéa, le projet, fruit de l'inspiration qui commande le travail. Au moins quand le travail humain est parfaitement humain. Parce qu'il peut y avoir un travail séparé de l'idéa. Vous pouvez être uniquement un exécuteur. Voyez, celui qui est le porteur dans une gare, il travaille, c'est évident. Il faut des biceps. Il faut quand même qu'il puisse faire ça. Qu'est-ce qu'il téléguide? C'est pas lui. Il est là. Ah madame, qu'est-ce qu'il faut? Porter ses valises. Oh, très bien, exécute. Oui, la détermination de son travail vient de l'extérieur. Et lui exécute, purement exécute. C'est ça qui est très très curieux. Le travail étant de l'ordre de l'exécution peut se séparer de sa détermination. C'est très curieux. C'est l'acte humain, un acte d'homme qui peut se séparer. Le travail en série dans une usine, c'est encore là uniquement l'exécution. Il faut demander à quelqu'un de faire tout le temps le même geste. Ceci pour que ça aille plus vite, sans aucune réflexion. Vous coupez l'exécution du projet. Et vous apercevez au bout d'un certain temps que l'exécution coupée du projet, donc de la finalité, s'use très vite. Et alors aujourd'hui, on commence à essayer de remettre l'exécution en connexion avec la finalité. On a perdu beaucoup de temps dans la division du travail, parce qu'on a pris le travail uniquement, ceux qui exécutent. Là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à noter, c'est que le travail peut se séparer de celui qui pense, de celui qui a un projet, de celui qui a une idée. Il peut devenir uniquement l'exécution. Mais on divise le travail. Celui qui pense, celui qui fait des épures, celui qui fait un plan, il travaille. On demandera l'exécution. Et autant que possible, il faut rester en connexion, conjoint. Si on est séparé complètement de celui qui a pensé, on risque d'interpréter tout à fait faussement. Et l'exécution sera complètement fausse. Et celui qui aura pensé arrivera. C'était fou, c'est pas ça que j'ai voulu. Vous avez tout interprété. Il sera furieux. Pourquoi? Parce que l'exécution a été coupée de celui qui pensait. Il y a eu un travail coupé. Alors que le travail humain demande la connexion entre celui qui est inspiré, celui qui pense, celui qui fait des projets, celui qui fait des épures, et puis l'exécution. On ne peut pas tout réaliser, vous voyez. Ça devient la complexité du travail et la division du travail. Il y a une division du travail qui tue le travail, qui supprime le travail humain. Parce qu'un travail de pure exécution n'est plus humain. Ça, c'est sûr. La preuve, c'est qu'une machine peut le remplacer. Tout ce que la machine peut remplacer, tout ce que l'ordinateur peut remplacer, n'est pas purement humain. Ça, c'est intéressant à voir. Seul est humain ce qui ne peut pas être remplacé par l'outil, par la machine. par l'ordinateur. Ça, c'est proprement humain. Et donc, tout ce progrès, ou cette complexité du travail, qui montre le travail en série, et qui montre un travail d'exécution pure, en série, n'est pas proprement humain, peut être remplacé par un automatisme. L'automation montre ça. On arrive à faire que, de fait, on remplace celui qui exécute. Tandis que la pensée, non. L'invention, non. Le travail commence par la formation au-dedans de l'homme, au-dedans de l'homme travailleur, de l'idée, d'une idée directrice. Et donc, le travail n'exclut pas l'inspiration. Et le véritable travail humain est en dépendance de l'inspiration. Alors, je ne vois pas avec vous l'inspiration, puisque l'année dernière, on a consacré toute l'année sur l'inspiration. Mais c'est très important ici de voir le lien qui existe entre l'inspiration et le travail. Je crois que là, Maritain a fait une erreur. Parce que Maritain, quand il essaie dans ses travaux, qui sont intéressants du reste, hein, ceux qui veulent essayer d'entrer un tout petit peu dans la philosophie de l'activité artistique au niveau proprement de l'art, il y a toujours un intérêt de regarder ce que Maritain dit. Mais, faisons attention, Maritain sépare complètement la technique, la techné, de l'art proprement dit. Et l'art proprement dit, il identifie à la poésis ou à la connaissance poétique qui est pratiquement une inspiration. Et cette inspiration, pour lui, connaissance poétique et l'art techné c'est l'exécution. Donc il sépare les deux. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. C'est peut-être ce qui arrive constamment. Ça c'est vrai. Mais c'est faux. Alors, il arrive avec cette distinction-là, c'est du reste très intéressant. Parce que si on veut vraiment comprendre Maritain, je crois qu'il faut comprendre la connaissance poétique de Maritain. C'est là où on saisit l'erreur fondamentale. C'est qu'il dit qu'en métaphysique, en philosophie, il y a aussi, au sommet de la métaphysique, une connaissance poétique qui est au-delà de la métaphysique. Et qui est plus que la métaphysique. C'est une connaissance poétique que saint Thomas a eue et qu'Aristote n'a pas eue. C'est pour ça qu'il y a une connaissance poétique, philosophique de l'être que Maritain a eue, que saint Thomas a eue. Non, ce n'est pas Maritain qui l'a eue, c'est Raïssa. Raïssa, il le dit, il le reconnaît. Raïssa a eu cette connaissance poétique et Maritain a exécuté. Vous voyez? Séparation. C'est peut-être du vécu, ça. C'est peut-être du vécu. Et ce vécu est devenu objectif. Pour lui, la métaphysique commence par une connaissance poétique. Poétique. Qui est l'inspiration. C'est pour ça qu'il parle de l'intuition de l'être. Une connaissance antérieure, parce que toute connaissance poétique est intuitive. Là, il y a une intuition de l'être, qu'on a ou qu'on n'a pas. Et cette connaissance poétique est au-delà de tout la réalisation concrète, qui est la métaphysique. est l'analyse. Oui, l'analyse, c'est la réalisation. La connaissance poétique, par définition, est intuitive, n'est pas analytique. Donc, elle est commune, là. Elle est commune au métaphysicien, qui est un vrai métaphysicien, qui a une connaissance poétique, à l'artiste, au poète. Donc, c'est le poète qui est l'inspirateur du tout. Ben, je crois que c'est là où on saisit ce qu'il y a de tout à fait particulier à Maritain. Il faut le comprendre. Et la techné, l'art, c'est la réalisation. Donc, vous pouvez être un poète pur sans rien réaliser. Vous pouvez être un métaphysicien pur sans rien analyser. Vous intuissiez l'intuition de l'être. Vous voyez, comme c'est proche de ce que Heidegger dit, pensez l'être. Intuitionnez l'être. Je crois que c'est très très proche. Là, il y a une correspondance très curieuse entre les deux. Il faudrait étudier d'une part ce que Heidegger dit sur penser l'être et ce que Maritain dit sur intuitionner l'être. Connaissance poétique. C'est, je crois, très proche. Et des deux côtés, c'est la subjectivité transcendantale de Kant. Et ni Maritain, ni Heidegger n'ont dépassé Kant. Je crois. Il ne faut pas dire ça. Mais entre nous, on peut le dire. Il faudrait étudier de très près. Ce serait très intéressant. Parce que je crois que la subjectivité transcendantale demeure comme première. Oui, la subjectivité transcendantale est vraie pour l'inspiration. Si toute la métaphysique était une connaissance artistique et poétique, Kant aurait raison. La subjectivité transcendantale. Dans la subjectivité transcendantale, c'est l'intuition de l'être qui est première. C'est pas la métaphysique, c'est l'intuition de l'être qui est tout à fait autre chose. C'est l'ontologie fondamentale. L'ontologie fondamentale est quelque chose qui est en dehors. Bon, je dis ça parce que c'est important de comprendre que dans une philosophie réaliste, ce n'est pas cette connaissance poétique qui est première. Elle est première génétiquement, mais elle n'est pas première selon l'ordre de nature et de perfection. Donc confusion entre les deux ordres. Parce qu'on reste à un niveau psychologique. Si on reste à un niveau psychologique, il y a confusion entre les deux ordres. Je ne crois pas que Maritain est allé plus loin. Je crois qu'il reste à ce niveau-là. Ça, on découvre assez facilement quand on regarde un petit peu la manière dont il parle de l'être et des sept leçons sur l'être. Alors, c'est intéressant parce que là, ça implique le tamisme, vous voyez, a voulu se rajeunir avec Maritain, mais au fond, il a perdu le sens métaphysique. Il a perdu le sens en tombant dans une subjectivité transcendantale de la connaissance poétique. Et donc, il n'a pas dépassé Kant. Il est resté dans cette dépendance. Pour nous, l'intuition artistique, l'inspiration, forme au-dedans de l'artiste une idée, un projet. Quand vous avez une petite dissertation à faire, vous devez être un artiste. Vous mettez du temps avant de comprendre ce que vous devez faire. Vous devez consulter beaucoup, parler. Puis tout d'un coup, une petite étincelle. Tiens, c'est ça. Et voyez le plan. Tout de suite, vous avez une idée directrice. Alors, cette idée directrice, c'est l'idée. Évidemment, il y en a qui en ont plus les uns que les autres. Ça, c'est très vrai. Mais voyez, l'artiste existe dans la pensée philosophique pour réaliser une œuvre. Ça, c'est l'artiste qui réalise une œuvre. Pour écrire un bouquin, pour réaliser une œuvre. Si vous n'avez pas d'idée directrice, qu'est-ce que vous ferez? Vous accumulerez. Si vous avez une idée directrice, ah, c'est autre chose, c'est organique. Mais la philosophie n'est pas une œuvre. La métaphysique n'est pas une œuvre. La métaphysique, c'est l'intelligence qui essaie de rejoindre la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. La philosophie est contemplative. Donc, elle est stérile par rapport aux œuvres. Aujourd'hui, le philosophe doit produire. Impossible autrement. Dans la recherche scientifique, tous les ans, vous devez pondre au moins un article. Au moins un article. Si vous ne faites pas ça, vous êtes rayé des cas de la recherche scientifique. Et on ne voit plus du tout l'aspect contemplatif. On ne voit plus du tout. On mesure par les résultats. Donc on est dans un monde d'efficacité. Et dans un monde d'efficacité, évidemment, il faut réaliser. Bien, je crois que tout projet demande la réalisation. Que toute idée demande la réalisation. Un artiste n'est un artiste que quand il réalise son œuvre. Et quand quelqu'un me dit « Oh mon père, je suis un poète », un très grand poète. Yeah. Montrez-moi vos écrits. Ah, je n'ai rien écrit. C'est tellement sublime que je ne peux pas écrire. Ah, vous n'êtes pas un artiste, alors. Vous n'êtes pas un poète. Et, comme celui qui dit, je suis stigmatisé. Je dis, montrez-moi ça. Ah non, c'est purement invisible. C'est beaucoup plus grand, parce que ce n'est pas charismatique. Oui, mais ça se dit, ces choses-là. On les a entendues. Je les ai entendus, je n'ai pas inventé ça. Parce que j'ai quand même un culot monstre. Les stigmates sont des signes visibles du mystère de la passion du Christ. Et l'artiste écrit, réalise une œuvre. Un architecte qui penserait uniquement, qui cogiterait toute la journée. Enfin, au noviciat, il peut cogiter, parce qu'il n'est plus un artiste. Alors il commence à cogiter. Il faut qu'il y ait une purification de son imaginaire pour arriver à la contemplation. La contemplation, il n'y a pas d'œuvre. Tandis que l'artiste, lui, réalise une œuvre. Et c'est la grande purification de l'artiste, de ne pas réaliser d'œuvre. Pas construire, vous voyez, dans le fond du parc, un cinéma. C'est la grande purification. Et il faut faire toujours attention, parce que c'est une purification très radicale, ça. C'est très, 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 très délicat. Parce qu'il faut arriver à une finalité capable d'assumer l'artiste. Le petit artiste ou le grand artiste qui est en nous. De réalisation.
Et en fait, son inspiration le pousserait à avoir un habitus, à s'exercer à
parler. Oui, attendez, vous avez toutes vu des pommes de terre qu'on met en cave et qui ont des germes étonnants. J'ai vu ça à Rimont l'autre jour. C'est pour préparer pour éplucher les légumes. J'étais assez loin, comme ma vue, je suis un peu myope, assez fort. De loin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est juste avant moi, mais à quelques mètres. C'était très beau. Je dis, c'est un bouquet de fleurs. C'était étonnant. L'imagination va d'autant plus que c'est indéterminé. Puis je vois que c'est des pommes de terre qui fleurissaient dans la cave. C'est beau, des germes de pommes de terre. Évidemment, la pomme de terre n'est pas faite pour ça. Si elle est dans la cave, elle est faite pour être mangée. Et tout le monde sait qu'une pomme de terre qui est en train de fleurir, hein, c'est plus du tout la pomme de terre tendre, c'est une pomme de terre nerveuse. C'est tout à fait particulier. Oui, pomme de terre qui fleurit comme ça. Eh bien, je crois que c'est l'artiste qui ne réalise pas son œuvre. Parce que pour réaliser une œuvre, il faut être en terre. Christ a besoin du bois. Il a besoin de la terre. Et quand la pomme de terre n'est pas en terre, qu'elle est une pomme en cave, c'est bon. Alors elle germe. Mais ce germe n'a pas d'avenir. Il use toute la sève, c'est tout. Un artiste qui ne réaliserait rien d'une pomme de terre en cave, ça pousse. De loin, c'est beau. De près, c'est moins. Mais de loin, c'est beau. C'est des germes qui poussent. Pas d'avenir, pas d'œuvre à réaliser. Il n'y a pas de matière. Le sevrage du noviciat fait ça. C'est le sevrage du noviciat. Il faut faire attention. Parce que ça peut manger tout l'homme, hein. Quand vous réalisez une œuvre, au moins vous vous soulagez. L'œuvre est faite. Pas besoin de la regarder. Tandis que les germes de pommes de terre, vous allez la regarder. Ils tiennent tous dans une petite corbeille. Saisissent ce que c'était que le bien. Vous voyez ? Ils saisissent l'idée du bien. Ils saisissent un idéal, mais pas le bien. Or, justement, le propre de l'éthique, c'est de me mettre en relation avec le bien que j'aime. Et à ce moment-là, je saisis que le bien que j'aime n'est pas une séduction. La séduction demeure immanente. Dans l'idée que j'ai. Mais alors, l'artiste doit réaliser. Autrement, il reste. Il reste avec la soif de réaliser, mais qu'il ne peut pas réaliser. Et cette soif, quand elle est trop forte, peut provoquer des désastres. C'est quelque chose de très, très vital, là. Vous voyez ? Pas sevrer trop vite quelqu'un. Le sevrage est toujours une chose difficile dans la vie végétative. Mais le sevrage de l'art est quelque chose de beaucoup plus difficile dans l'ordre spirituel. Et elle en touche ces problèmes. Ils sont ces problèmes-là de l'inspiration. Ah, tout à fait. Ah, oui, oui. Je crois pas. Je crois que l'habitus d'art est acquis à partir de l'inspiration. Et une inspiration qui n'est pas coupée de la réalisation. Ça implique les deux. Vous avez des artistes qui ont peu d'inspiration et un métier extraordinaire pour la réalisation. Des virtuoses. Étonnants. Peu d'inspiration, tout petit peu. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup d'interpréter. Parce que l'interprétation a l'avantage qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'inspiration. Il faut être virtuose, merveilleux. Puis vous avez des artistes qui sont vraiment très inspirés. Et peu de réalisation. Oui, alors l'habitus d'art aura des pôles différents, ce qui implique les deux. C'est très riche un habitus. Un habitus, parce que c'est vital, n'a pas besoin d'opter. Vous avez des artistes qui sont avant tout des gens d'invention. Et puis vous avez des artistes qui ont peu d'invention, mais beaucoup, beaucoup de métiers. Un métier fou. Oui. Alors là, la virtuosité est quelque chose. Il faut voir rien de temps, quelque chose. Je réalise. Ce sera beau. Ce ne sera pas génial. Et ça tiendra la route. À sa vitesse. C'est pas un génie. Bon, vous voyez, c'est pour vous montrer que l'habitus d'art implique l'inspiration et la réalisation. Je ne coupe pas, je ne sépare pas les deux. Je crois que ça, c'est une erreur. De séparer la connaissance poétique et la réalisation. Toute la réalisation qui implique le travail. Hein. Le travail, il est là. Il est commandé par cette connaissance poétique. Il est commandé par cette inspiration. Il est commandé par la naissance de l'idéa, de l'idée, ce qu'on doit faire. Tout le travail est commandé par ça. Tout le travail est déterminé par ça. Et le choix de la matière, et le choix des outils, on tâtonnera peut-être un peu, mais c'est commandé par ça. Et il y a cette idéa qui prend possession de l'artiste. Et l'idéa demande de s'incarner. Impossible autrement. Il n'y a pas de coupure. Vous savez, un artiste qui serait coupé de son travail et de la réalisation, ça risque de tourner en rond. Et à ce moment-là, c'est mauvais, c'est pas bon. Je me souviens, cette petite, c'était la fille d'un japonais, de mère française. La mère était très musicienne. Elle avait toutes ses études conservatoires. Et le père était peintre. Un grand peintre japonais. Qui faisait des choses à la japonaise étonnantes. Il y avait une petite fille qui était pour eux comme une petite déesse. Ils aimaient follement ce petit enfant. Je l'ai connue quand elle était très jeune. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je m'intéresserais de la retrouver. Ouais. Elle avait comme une espèce de d'arinée d'un art très abstrait, du reste. Le père, c'était l'inverse. Le père n'était pas du tout dans l'art abstrait, c'était l'art japonais. Il peignait des. Je me souviens, il m'a montré certaines plantes qu'il essayait de. Qui étaient extraordinaires. Un chardon. Très bien. Chardon, c'est toujours un peu japonais. C'est extraordinaire. Un chardon vu, vous voyez, dans le brouillard, avec une lumière qui vient éclairer, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et elle, c'était au contraire, c'était vitraux. Et elle avait vu, c'est le père qui m'a raconté ça, elle avait vu pendant sa. Elle était promenée avec son père dans une forêt, et il y avait eu. L'été, il y a eu un feu dans la forêt. Eh bien, cette petite, à 4 heures du matin, a réveillé son père. Elle était tellement saisie par une aspiration de vitrail, de feu. C'était un vitrail de feu. Étonnant comme lumière, étonnant. Et il fallait qu'elle le réalise tout de suite, tellement elle était prise par ça. On ne pouvait pas autrement. C'est impératif. Vous voyez, une enfant, c'est l'instinct, c'était l'inspiration. Mais demander la réalisation. On lui aurait dit de ne pas réaliser, mais je crois qu'elle serait tombée malade. Tellement c'était fort. Alors, évidemment, le père était en admiration. Ça sortait comme ça. Peut-être que ce n'était pas très bon point de vue éducatif. Vous savez, mais ça, c'est l'éducation japonaise. C'est extraordinaire. Cet enfant n'a jamais touché autre chose que de la faïence. Du cristal pour que le toucher reste pur. Fallait pas toucher ça. Contamination du toucher. Les objets habituels qu'on vend pour les enfants, mais qui sont justement d'une matière plastique. Non, uniquement. Et le père avait cette théorie. Moi, ça m'intéressait beaucoup d'entendre ça pour les sensibles propres. Il le disait trop aussi. Ça, c'est pour montrer le lien. Ça. Tout artiste demande de réaliser. Même s'il ne réalise pas jusqu'au bout, ça demande la réalisation. Donc, c'est contraire. Oui, ça, c'est platonicien. C'est platonicien. La séparation de l'âme et du corps. Or, l'artiste, c'est celui qui aime l'incarnation. Et qui sait que la grandeur, c'est d'un esprit incarné. C'est ça l'artiste. Et qui montre ça. Et il montre ça à travers tout. Alors, c'est les deux qui se tiennent. Alors, il faut bien comprendre, vous voyez, que l'inspiration commande le travail. Mais quelquefois, et c'est vrai, l'artiste ne peut pas tout faire. Alors, il a avec lui ceux qui vont réaliser son travail, qui l'aideront dans la réalisation, qui exécuteront. Donc il y a un travail qui peut être uniquement un travail d'exécution, qui reçoit les ordres, qui exécute. Mais qui, quand ce travail d'exécution se fait bien, modifiera le plan? Et les questions quelqu'un qui exécute bien posera à celui qui a l'inspiration. Est-ce que vous n'êtes pas trompé là? Est-ce qu'il ne faut pas changer? En fonction de la réalisation. La réalisation conditionne la réalisation, du moins la matière conditionne la réalisation et l'outil conditionne aussi la réalisation. Ne le détermine pas, mais modifie les déterminations. C'est dans ce sens-là qu'un véritable artiste doit être très proche de la réalisation. Il doit être présent à la réalisation. Parce que son inspiration n'est pas parfaite sans l'exécution. Et son inspiration va se modifier en fonction de la réalisation. Ça, c'est capital, si on veut comprendre. Et c'est là où on voit combien technique, techné, art, est lié à l'inspiration, à la connaissance poétique. Il y a une espèce d'union entre les deux. Mais ce qu'on peut, et c'est ce que nous faisons ici dans une analyse philosophique, on peut étudier la réalisation pour elle-même en disant l'inspiration, on l'étudie aussi pour elle-même. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Donc, comme nous l'avons étudié beaucoup l'année dernière, je ne reviens pas dessus. Et c'est très intéressant au plan philosophique, puisqu'au plan philosophique, ça nous fait comprendre comment on est arrivé à la position de Kant. Vous savez qu'un des aspects les plus intéressants de la philosophie de Kant, c'est sa critique de l'imagination, de la connaissance imaginaire. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Erikson dans Kant, ce serait intéressant, ce serait merveilleux. Parce que c'est par l'imagination qu'on peut parler de la subjectivité transcendantale. L'imaginaire, c'est la subjectivité transcendantale. Aristote avait très bien saisi ça. Alors, il n'a pas mis le mot. C'est dommage. S'il l'avait mis, ce serait aristotélicien. Maintenant, c'est kantien. Aristote a très bien saisi que l'imaginaire, c'était le premier moment de la synthèse. L'imaginaire en nous. Et que l'imaginaire, c'est un pur mouvement. Donc l'imaginaire, c'est un processus de connaissance qui se donne à soi-même sa propre objectivité. C'est bien ça la subjectivité transcendantale. C'est un mouvement immanent de connaissance qui se donne à soi-même sa propre détermination. L'imaginaire se détermine elle-même. L'imagination. Et elle est la source des premières synthèses. Les premières synthèses sont toujours imaginaires. Quelqu'un qui n'a pas tout le sens de l'imagination n'a pas le sens de la synthèse. Toutes les synthèses premières, toutes les synthèses sont d'abord imaginaires. Puis petit à petit, on les purifie, elles deviennent des synthèses intellectuelles. Mais autrement, c'est d'abord imaginatif. Et c'est très curieux. Combien l'imagination est source de détermination objective, mais par la subjectivité d'imagination. C'est pour ça que c'est si important l'imagination. Chose extrêmement importante. On a toujours un peu peur, parce que c'est la folle du logis, mais au point de vue artistique et au point de vue connaissance de l'art, l'imaginaire est capital et essentiel. Un artiste sans imagination, c'est un pauvre type. Un homme moral sans imagination, un homme sévère, mais très droit. C'est vrai, l'imaginaire est surtout dangereux dans l'ordre moral. Quand il fait passer du domaine esthétique au domaine moral, et qu'il fait cette manière tout à fait particulière d'annexer le moral à l'esthétique. Et ça, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire peut le faire grâce à sa puissance de synthèse. Grâce à sa subjectivité transcendantale. Vous voyez, et c'est là où Kant a quelque chose de juste. Il faut toujours saisir un auteur là où il a quelque chose de juste. Là où on peut l'assumer. C'est la critique de l'imaginaire qui est intéressant chez Kant. Parce que là, on voit très bien comment tout est né par la subjectivité transcendantale. Donc, ici, vous voyez bien, le travail est lié à l'aspiration. Alors, la fois prochaine, nous étudions le travail pour lui-même.